Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est une conversation autour de l'éducation et la parentalité. Comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme et nous souhaitons ainsi vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous avez à cœur d'offrir la meilleure éducation aux enfants, ce podcast est fait pour vous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bonjour à tous, nous sommes très honorés d'avoir partagé un moment aujourd'hui avec Christelle Ferjou et Moïna Fauchier de la Vigne, co-autrices de l'ouvrage « Emmener les enfants dehors ». Passionnée de la classe dehors, elle milite pour donner un accès régulier à la nature aux enfants en faisant classe à l'extérieur. Durant cet entretien, nous avons parlé des raisons pour lesquelles nos enfants sont devenus des enfants d'intérieur, du lien essentiel entre nature et compétences cognitives, et surtout de tous les bienfaits de cet enseignement dehors. À une époque où nous sommes de plus en plus enfermés, replacer la nature au centre du développement de chacun nous a semblé essentiel. Alors un grand merci à Christelle et Moïna pour leur temps précieux. Je vous souhaite une très bonne écoute et je suis navrée pour ma voix un petit peu malade. Je suis aujourd'hui un peu enrhumée. Merci beaucoup. Bonjour Christelle, bonjour Moïna.
Bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Alors, c'est une nouvelle pour nous d'enregistrer un épisode des Adultes de Demain à 4, à distance. Mais on est super contente de relever ce défi avec vous. Et surtout pour parler d'un sujet crucial, qui est celui de l'école du dehors, alors même que nous vivons dans un monde qui nous enferme de plus en plus. Et c'est notamment un projet que vous avez illustré à travers un livre qui est sorti en août 2020, si je me trompe pas, aux éditions Lafond. Et on en reparlera pendant la conversation. Mais avant que l'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais bien que vous nous rappeliez votre parcours et surtout comment vous vous êtes rencontrés. Donc on peut démarrer par vous, Moïna.
Oui, bien sûr. Alors moi, je suis plus novice sur le sujet que Christelle, qui travaille dessus depuis bien plus longtemps que moi. Et donc moi, je suis journaliste et je vais commencer à m'intéresser au sujet il y a à peu près 4 ans. J'ai découvert ça via les écoles en forêt. Donc, c'est des écoles où les enfants font classe à l'extérieur dans un milieu naturel ou toute la journée ou une majorité du temps à toutes les saisons. Et quand j'ai découvert ça, je me suis rendu compte que ça existait dans les pays du Nord, en Allemagne, ça a développé beaucoup. Et je me suis demandé ce qui se passait en France par rapport à ça. J'ai vu qu'il y avait très peu d'écoles en forêt, mais qu'il y avait des enseignants et notamment Christelle Ferjou, qui est une des pionnières de cette pratique en France, qui avait commencé à faire classe dehors une fois par semaine de façon régulière, donc une demi-journée, dans son école publique dans les Deux-Sèvres. Et donc j'ai contacté Christelle il y a 3 ans, je crois, à peu près, pour une interview, et donc on s'est rencontrés comme ça. Donc au départ, c'était une rencontre par téléphone, quelques coups de fil, on a fait une interview qui a été publiée sur le site du Monde, et après on a continué à être en contact, et finalement on a décidé de faire un livre ensemble sur le sujet. Donc, vas-y, Christelle.
Donc, ben moi, je vais commencer. Oui, donc mon parcours professionnel, en fait, m'a d'abord conduit dans le milieu de l'éducation nature-environnement. Il y a plus de 26 ans, en 94, en fait, je me suis formée à la pédagogie par la nature. J'ai suivi la formation éco-interprète qui m'a amenée à devenir responsable pédagogique dans un centre d'éducation à l'environnement, un CPIE, sur le département sur lequel j'habite actuellement, les Deux-Sèvres. Et au bout de 5 années de pratique au sein de ce CPIE, mais aussi dans les réseaux d'éducation nature-environnement, notamment le réseau national École et Nature, mais j'ai eu envie de creuser un peu plus la pédagogie. Sur la pédagogie, ça m'a en fait assez passionnée. Et donc, j'ai décidé de passer le concours de professeur des écoles en candidate libre. Donc, à partir des années 2000, je deviens professeur des écoles, puis très rapidement maîtresse formatrice, plutôt spécialisée en école maternelle. Et pendant, en fait, au cours du dernier poste que j'ai pu prendre en charge en tant que maîtresse formatrice à l'école de Pompère, j'ai mis en place cette pratique régulière de classe dehors que moi, en fait, j'ai découvert parce que je n'ai jamais, en devenant professeur des écoles, j'ai continué à rester dans les réseaux d'éducation nature-environnement, donc à me documenter, et je suis tombée, en fait, sur la lecture d'un article. C'était dans une revue belge, la revue Symbiose, d'un article de Sarah Vauquier qui évoquait sa pratique d'école forestière en Suisse. Et donc, j'ai un petit peu creusé le sujet et lu le livre de Sarah Vauquier qui était sorti à l'époque, Les enfants des bois. Et puis, je me suis dit, mais moi, c'est ça que je veux faire. Et j'ai réfléchi à comment transposer, en fait, ces pratiques existantes dans les pays nord-européens sur ma propre pratique de classe. Donc, avec un contexte très différent, en école publique française, dans un milieu rural plutôt bocager, donc où je ne disposais pas du tout de sous-bois, mais plutôt d'un terrain communal très ouvert. Et j'ai un peu adapté ce que je connaissais du sujet et puis ma pratique aussi, en m'appuyant bien sûr sur ma pratique antérieure, pour démarrer cette pratique régulière de classe dehors.
Super intéressant. Et alors, pourquoi vous vous êtes dit qu'il était primordial d'emmener nos enfants dehors ? Peut-être que Christelle, alors, vous pouvez commencer par répondre.
Oui. Mais en fait, moi, j'avais dès le début de ma pratique en tant que professeur des écoles, j'ai initié avec l'ensemble de mes classes des projets d'éducation nature-environnement, mais c'était des projets plutôt courts, même sur plusieurs mois, ça restait des projets. Même transversaux, ça restait des projets très ciblés. Et en fait, j'ai vraiment eu envie d'aller plus loin. Et ce qui m'a produit un peu le déclic, c'est d'abord un film qui est sorti en 2010, de mémoire, qui s'appelle Bébé, et qui présentait, donc c'était un film grand public qui est sorti sur les grands écrans, et qui présentait en fait 4 bébés du monde qui naissaient dans des pays très très différents, à la fois dans les milieux occidentaux, mais aussi dans les milieux plus en développement. Et en fait, ce qui m'a vraiment frappée dans ce film-là, où on suivait vraiment ces bébés sur leur première année de vie, donc de la naissance à leur 1 an, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Je me suis aperçue que ces enfants grandissaient dans des milieux très très différents, et que les enfants des pays occidentaux, en fait, dans leur développement de leur toute petite enfance, vivaient essentiellement en intérieur et exploraient tactilement que des matières artificielles. Alors qu'on voyait très bien dans le film cette petite fille de Namibie qui était en permanence dehors, à jouer avec la terre, avec les objets qui étaient autour d'elle. Enfin, et là, je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, on s'est éloigné de ce dehors. Je crois que, et j'ai vraiment senti profondément l'importance l'école avait un rôle important à jouer pour permettre à nos élèves, à nos jeunes élèves, de renouer ce lien avec les éléments plus naturels.
Et Moïna, vous sauriez nous expliquer pourquoi nos enfants occidentaux sont devenus des enfants d'intérieur ?
Je pense une des grandes raisons, on cite l'urbanisation, mais il y a 50 ans, les enfants vivaient déjà beaucoup en ville. mais ils étaient quand même beaucoup plus dehors, ils avaient beaucoup plus de liberté. C'est pas que l'extérieur et l'intérieur, c'est aussi est-ce qu'on laisse de la liberté aux enfants, est-ce qu'on leur fait confiance, est-ce qu'on n'est pas dans la surveillance à chaque instant. Et donc, un des éléments très importants qui a changé les choses depuis ces dernières, c'est en quelques décennies que ça s'est passé, que les enfants sont rentrés à l'intérieur, c'est la vision qu'on a du risque et la quête qu'on a d'un risque zéro. En fait, on appréhende le risque comme quelque chose d'uniquement négatif, alors que le risque est nécessaire, une petite dose de risque est nécessaire pour que ce soit intéressant, pour apprendre, pour être motivé. Par exemple, un enfant qui commence à marcher, on va accepter qu'il prenne le risque de tomber par terre parce que c'est la seule façon qu'on a d'apprendre à marcher. Si on le tient tout le temps, il apprendra jamais à marcher. Et le problème, c'est qu'on a tendance à accepter que l'enfant tombe quand il apprend à marcher, mais que dès qu'il sait marcher, on va pas accepter qu'il saute, qu'il essaie de grimper dans un arbre. Et cette notion de risque, c'est ce qui fait que si on fait confiance à l'enfant, on lui offre cette possibilité d'apprendre et de prendre des risques. C'est aussi ça qui va lui donner sa confiance en lui et qui va apprendre aussi à faire des erreurs et à tomber. Et l'apprentissage aussi, et tous les apprentissages se font par les erreurs. On apprend par nos erreurs.
Bien sûr. Et selon vous, d'où viennent toutes ces peurs des adultes ?
C'est une vaste question, Christelle. T'as une idée ?
Alors, mais je pourrais déjà parler de cette première peur qu'on a de la nature. Hein. Enfin, c'est pas une idée très nouvelle. Hein. François Terrasson l'a bien écrit dans son livre La peur de la nature. Aujourd'hui encore, enfin, plus on s'éloigne en fait de la nature, hein, avec l'urbanisation croissante de nos sociétés, moins on va la connaître et plus on va se distancier d'elle. Et donc, moins on va être à l'aise avec elle. Donc, il y a cette première peur de la nature. Une deuxième peur aussi, enfin, je parlais d'urbanisation croissante. C'est vrai que quand on regarde les films des années 50, 60, où on voit beaucoup d'enfants investir la cité, la ville, hein, on a vraiment une culture de l'enfant dans la ville. Aujourd'hui, on ne voit plus d'enfants seuls dans les rues des villes parce qu'il y a eu une augmentation de la présence des voitures. Donc, une dangerosité plus importante aussi des villes, qui fait que au-delà de la surprotection parentale, on a réellement une problématique de repenser la ville pour qu'elle soit plus adaptée aux piétons et aux enfants en particulier.
Ouais, c'est sûr. Et vous nous avez rappelé au tout début, Christelle, que il y a un lien qui n'est plus secret entre la nature et les compétences cognitives. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce sujet ?
Oui, alors on sait, enfin, par les recherches scientifiques, hein, qui ont été conduites ces dernières années, on sait parfaitement que cette relation, enfin, que si on cultive cette relation de l'enfant à la nature, enfin, cette relation-là, elle est nécessaire pour le bon développement d'un enfant. Tout simplement parce que quand on est dehors, quand on place un enfant en contact direct avec les éléments naturels, c'est tous ses sens qui vont être sollicités, mais au-delà de ses sens, c'est son corps entier qui va être mobilisé, être en mouvement. L'enfant va vraiment pouvoir développer une gestuelle particulière qui participe à son processus de développement.
Et comment alors renouer l'enfant avec cette nature, sachant que, comme vous le disiez, énormément d'enfants sont maintenant citadins, ont moins de possibilités d'être dehors. Comment arriver à les relier à cette nature ?
Eh bien, nous, notre rôle en tant qu'adultes, éducateurs, accompagnant les enfants, eh bien, déjà, leur permettre de pouvoir vivre des temps dehors, même dans des espaces de nature pas extraordinaires, hein, que ce soit un parc, un espace public, mais où on va lui donner la possibilité de pouvoir jouer avec des flaques d'eau, d'être en contact avec la terre, avec le végétal, d'être vraiment en contact avec le vivant qui est autour de lui, c'est déjà un premier pas pour faciliter cette reliance en fait de l'enfant à la nature.
Par rapport à ça, je trouve que l'école a aussi un rôle à jouer parce que Il y a beaucoup d'enfants qui partent même pas en, qui partent jamais en vacances, par exemple. Et donc, le seul contact qu'ils ont avec la nature, c'est dans leur environnement direct, c'est-à-dire, et en premier lieu à l'école où ils vont tous les jours, parce que l'école est obligatoire. Donc, l'accès qu'offre, qui est offert par l'école est important, et de se dire que, à l'inverse, vu comme on sait aujourd'hui tous les bénéfices que ça a, de varier les espaces d'apprentissage, d'offrir cet accès naturel à un environnement riche, à du vivant, et que ça a des bénéfices sur les apprentissages, sur le bien-être, contre la sédentarité, qui a un grave problème de santé publique en France, etc. Se dire que l'école n'est que à l'intérieur et que les cours sont très peu naturels, ça veut dire qu'on prive les enfants de tout ça, et encore plus les enfants qui en auraient le plus besoin.
Bien entendu.
Oui, et puis on peut compléter sur cette idée qu'effectivement le dehors va proposer un espace complexe aux enfants, beaucoup plus complexe qu'un espace intérieur, parce que dehors, rien qu'au niveau du sol, si on pense au sol, dans une salle de classe ou dans une maison, dans une chambre ou un salon, le sol est lisse, plat, il y a très peu d'obstacles à part le mobilier, alors que dehors, l'enfant va être confronté à un sol beaucoup plus accidenté, avec des creux, des bosses, et donc ça va l'obliger à s'adapter en permanence. Et donc, du coup, il est beaucoup plus mobilisé, vraiment par tous ses sens et corporellement, beaucoup plus qu'à l'intérieur.
Que les éléments naturels n'ont pas été pensés pour les enfants, comme une structure de jeu ou des choses comme ça. C'est pas adapté aux enfants.
C'est
d'ailleurs une des raisons pour lesquelles des enfants dans un milieu naturel, et ça tous les enseignants qui font classe dehors le remontent aussi, il y a des études qui le prouvent aussi, ça encourage par exemple des choses comme la coopération et la communication entre les enfants, parce que si tout d'un coup ils ont envie de soulever quelque chose qui est très lourd et qu'ils n'arrivent pas à le faire tout seul, et ben ils vont le faire à plusieurs, ils vont s'aider pour grimper, pour faire des choses et pour mener à bien des projets. Parce que c'est pas un élément qui est lisse et qui est pensé pour eux et adapté pour eux. C'est à eux de s'adapter à cet environnement qui est un environnement naturel, et ça montre aussi, et ça leur permet aussi de prendre conscience de leurs limites. Que aujourd'hui ils arrivent pas à le faire, mais peut-être que dans quelques temps ils arriveront à le faire, et en fonction des saisons ça varie aussi. Et ça, l'apprentissage et la prise de conscience de ses limites de ce qu'on peut faire, c'est quelque chose de très important aussi. L'apprentissage de qu'on n'est pas tout puissant, ça fait partie aussi du processus de développement. Et cette phase-là est importante, et offrir cet accès à un environnement complexe et qui n'est pas adapté à eux, ça aide à passer cette étape.
Et je dirais d'autant plus que dans une salle de classe, même si on développe des pratiques qui visent plus d'autonomie de l'enfant et aussi des pratiques qui vont favoriser la coopération, tous les enseignants qui pratiquent la classe dehors identifient bien que quand on fait classe dehors, ça décuple encore plus cette communication entre les enfants et cette coopération, parce que il y a beaucoup plus de place dans une salle de classe. Les coins, par exemple, je pense en école maternelle aux espaces de jeu symboliques, ils restent réduits, restreints et à un petit nombre d'enfants. Alors que dehors, tous les enfants qui ont envie en même temps d'explorer des sonorités avec des objets qui leur sont à disposition, ils vont pouvoir le faire. La place, l'espace est beaucoup plus vaste et permet à la fois des regroupements de plus grand nombre d'enfants, mais aussi des façons de pouvoir explorer seuls. L'alternance est beaucoup plus est vraiment facilitée quand on est dehors.
Et surtout, je pensais à quelque chose d'autre. Je pense que c'est aussi primordial de reconnecter l'enfant à la nature quand on voit à quel point les adultes en sont complètement déconnectés et ont l'impression que la nature et l'humanité vivent l'un à côté de l'autre, alors que on a besoin l'un de l'autre pour survivre. Et je pense que ça, c'est un point essentiel.
Oui, en effet, on le voit bien aujourd'hui, les générations de nouveaux parents qui viennent à l'école avec leurs enfants ont eux-mêmes très peu de contact avec cette nature, et donc sont parfois aussi démunis pour savoir comment accompagner leur enfant sur des activités très simples dehors. Et souvent, ils partagent en tant que parents leur surprise de voir depuis en fait que leur enfant pratique la classe dehors, comment il est aussi autonome à avoir envie d'aller jouer dans le jardin tout simplement de la maison familiale alors qu'il ne jouait pas auparavant seul. Donc voilà, il y a une autonomie qui s'acquiert aussi par par le fait que l'école propose des temps qui vont mettre en joie l'enfant. Il va prendre du plaisir avec ses copains, ses amis de classe, mais ça va lui donner envie d'aller explorer le dehors de chez lui aussi et de façon assez autonome.
C'est génial.
Ouais, effectivement, je rebondis par rapport à ce que disait Christelle. Elle parle de joie et ça, c'est vraiment frappant dans tous les enseignants qui font classe dehors. C'est quelque chose qui revient systématiquement, c'est à quel point les enfants aiment la classe dehors, et tous les enfants aiment la classe dehors, alors qu'il y a beaucoup d'enfants qui aiment pas l'école à l'intérieur. Donc c'est aussi une façon de faire aimer l'école aux enfants. Donc rien que par ce petit point-là, je trouve que c'est déjà énorme, c'est la possibilité que ça a. Et par rapport à la question de l'écologie, effectivement, le fait de offrir ces expériences de nature, d'expériences directes, de jeux libres dans la nature, c'est une façon importante. Et d'ailleurs, par exemple, il y a une chercheuse, une éco-psychologue américaine, Louise Chola, qui a fait une étude là-dessus, qui a travaillé sur les adultes qui défenseurs de la nature, et tous racontaient à quel point eux, quand ils étaient enfants, jouaient beaucoup dehors et étaient en nature, et c'est comme ça qu'ils ont forgé cette conscience environnementale et qu'ils ont réalisé que eux faisaient que l'être humain et que chaque personne faisait partie de cette nature autour de lui, et que nous sommes nature aussi, il n'y a pas la nature d'un côté et l'être humain de l'autre. Et donc par rapport à tout ce qui est éducation au développement durable, etc., en France, on est encore beaucoup dans des choses qui sont que mentales, et on va leur expliquer à l'intérieur et leur faire des leçons de morale sur le plastique, etc. Mais la première chose qu'on pourrait faire, qui est important pour leur développement, mais aussi par rapport à la conscience environnementale, c'est de les amener dehors et de leur faire découvrir le monde dans lequel ils habitent, et pour qu'ils touchent terre, et pour qu'ils habitent vraiment ce monde-là. Et par rapport à ça, Christelle, tu peux peut-être parler de l'importance du lieu, de la régularité du lieu aussi.
Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai qu'on n'imaginerait pas, en école primaire en tout cas, de faire changer de classe tous les jours à nos élèves. Eh bien, faire classe dehors, c'est exactement pareil. C'est important d'identifier un lieu qui va devenir le lieu de la classe dehors et qui va permettre au fil de l'année et dans cette régularité que les enfants rentrent réellement en contact et s'attachent à ce lieu. Certains même rentrent en relation avec un arbre en particulier, ça va être un petit peu leur espace à eux, et ils vont rentrer en contact privilégié avec un végétal ou voilà un arbre en particulier, et qui va, enfin voilà, cet attachement au lieu va leur donner envie de mieux connaître cet espace en particulier et va leur donner aussi envie de le protéger.
C'est génial. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement comment ça se déroule une demi-journée en école du dehors ?
Oui, alors en fait, c'est un petit peu comme quand on fait classe dans sa classe. Donc je dirais qu'il n'y a pas une journée type complètement, puisque il y a autant de pratiques de classe que d'enseignants dans les classes, et donc il y a autant de pratiques de classe dehors, je dirais, que de classe dehors. En fait, l'enseignant, il fait classe dehors avec ce qu'il est et avec son propre rapport qu'il a lui-même à la nature. Mais quand même, globalement, j'invite souvent les enseignants à ritualiser leur fonctionnement de classe dehors comme ils le font en classe à l'intérieur. Donc c'est toujours un important de proposer un rituel d'entrée dans le lieu de classe dehors, mais comme quand on rentre en classe, on n'y rentre pas n'importe comment, et bien dans ce nouveau lieu, dans ce nouvel espace d'apprentissage, on ne va pas y rentrer n'importe comment, puisque cet espace du dehors ne nous appartient pas. On en est gardien à un moment donné, mais c'est important de faire prendre conscience aussi aux enfants que dans ce nouvel espace, il y a plein d'autres êtres vivants que nous, que ce soit les plantes, la microfaune, la faune également. Donc du coup, c'est vrai que c'est important de ritualiser ce moment où symboliquement on rentre dans le lieu, on demande un peu l'autorisation de rentrer dans cet espace pour apprendre. Et donc j'aime bien aussi proposer en fin de matinée un rituel que j'appelle le cercle de clôture, qui va nous permettre de partager tout notre vécu de cette demi-journée. Et entre ces deux rituels, je dirais, moi, je propose vraiment un temps long d'exploration avec en parallèle des activités d'enseignement et des temps de jeu libre. Quand on fait classe dehors, on est sur une toute autre temporalité que celle de la classe. Dans notre fonctionnement de classe, même si on fonctionne avec des ateliers autonomes, avec une classe beaucoup plus coopérative et avec des pratiques de libre choix, notre fonctionnement de classe entre les murs, elle est très rythmée, le temps est cloisonné parce que souvent, ben voilà, on travaille dans une école avec d'autres collègues et donc pour se partager les différents espaces de l'école, on a besoin d'organiser notre emploi du temps. Quand on est dehors, cette temporalité, elle est très différente. On est sur un temps beaucoup plus long. Et d'ailleurs, souvent, les enfants, quand c'est l'heure de ranger le matériel et de dire au revoir à notre espace de classe dehors, ils s'étonnent tous. Déjà, c'est déjà fini. En fait, le temps leur paraît court alors qu'on est sur du temps beaucoup plus long, mais ils n'ont tellement pas le temps de s'ennuyer que c'est important de travailler sur cette temporalité longue.
Par rapport à ça, juste si je peux rebondir, il y a un point qui est vraiment très intéressant, c'est effectivement ce que ça permet de se libérer des contraintes. Il y a la contrainte du temps, il y a la contrainte de l'espace, et en fait, le fait de sortir, même si l'endroit, par exemple, l'endroit où allait Christelle, c'était pas une énorme forêt. C'est un endroit qui n'était pas du tout gigantesque, mais par contre, c'était déjà beaucoup plus riche et il y avait beaucoup plus de possibilités et d'espace que dans une salle de classe. Et donc, un enfant, il peut bouger sans que ça dérange les autres. Il peut courir s'il en a envie ou sauter ou même faire du bruit sans que ça gêne. Alors que dans un espace, dans une classe à l'intérieur, il faudra pas que l'enfant fasse du bruit, il faut surtout pas qu'il crie, il faut pas qu'il court. Et donc, il y a toutes ces contraintes-là, elles sont à peu près levées à l'extérieur. Ça veut pas dire que les enfants vont hurler tout le temps et faire que de sauter. Mais si à un moment, ils ont besoin de le faire, ils peuvent le faire. Et à un autre moment, être effectivement tout seul dans un coin à observer quelque chose à la loupe pendant 20 minutes, ça aussi, c'est possible. Et d'avoir un espace, de se mettre un petit peu à l'écart si j'ai envie, etc. Donc, ça donne beaucoup moins de contraintes, ça libère les contraintes.
Et je veux rebondir sur ce que tu dis aussi, Moïna. En fait, quand ils sont dehors, ils peuvent explorer les matières dans toutes leurs dimensions. Je pense par exemple à l'eau. Ça nous arrive de conduire des activités avec l'eau et d'exploration d'eau dans une classe, dans une salle de classe, mais c'est beaucoup plus limité parce qu'il ne faut pas que ça déborde trop. Enfin, quand on est dehors, l'exploration de l'eau, eh bien, l'enfant est confronté à des phénomènes physiques et chimiques différents parce que la terre va absorber l'eau, donc ça ne déborde jamais et on peut vraiment explorer l'eau en particulier dans toutes ses dimensions sans se limiter. Et ça fait toute la différence avec ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre dans une salle de classe.
Ah, c'est super intéressant. Et est-ce que vous pourriez nous partager des conseils sur l'espace à choisir pour mettre en place ces demi-journées, ces rituels, pour tous les enseignants qui nous écoutent et qui souhaiteraient le mettre en place à côté de leur école?
Alors, c'est important, effectivement, de bien prendre le temps de choisir son espace. Et souvent, ça n'est pas seul qu'on va pouvoir identifier et choisir un espace. Il va falloir s'ouvrir. Enfin, comme on ouvre les enfants à une autre forme d'école, il va falloir s'ouvrir aussi sur les partenaires qui vont pouvoir nous accompagner pour bien choisir notre lieu. Donc, dans un premier temps, bien sûr, la municipalité ou la collectivité qui gère le territoire sur lequel est notre école, parce que souvent les élus, les habitants eux-mêmes et parfois les parents connaissent parfois mieux le lieu sur lequel est implantée notre école que nous, puisqu'on n'y vit pas forcément sur le territoire de notre école. Donc se rapprocher un petit peu des collectivités, enfin moi c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé quand j'ai voulu commencer ma pratique de classe dehors, mais il a bien fallu que j'identifie un lieu pour, et donc je suis allée voir la municipalité Et c'est vraiment le maire de la commune qui m'a dit, ah, mais il y a un terrain communal sur lequel on avait un projet de jardin, sur lequel on a finalement rien fait. Peut-être que ça pourrait vous intéresser. Et donc voilà, première chose, c'est s'associer à d'autres personnes. On peut aussi solliciter bien sûr des éducateurs nature environnement qui vont nous aider. Une fois qu'on a identifié peut-être un lieu en particulier, ils vont mieux nous aider à repérer le potentiel aussi du lieu. Et c'est important, en tout cas sur le lieu qu'on identifie, que ce soit un lieu suffisamment complexe, c'est-à-dire au moins permettre à des enfants d'être en contact direct avec la terre, avec l'herbe, avec une diversité de plantes. Donc c'est vrai qu'un jardin public urbain, c'est plus limité, mais déjà si on s'assure que même dans un jardin public, la municipalité nous autorise à aller sur l'herbe, à modifier peut-être un petit peu différemment l'espace, ou à utiliser dans un jardin public un coin qui est peut-être moins utilisé par la population en général et un peu plus ensauvagé, c'est toujours plus riche.
Donc, par exemple, par rapport à ça, il y a un enseignant à Paris qui fait classe dehors, et au départ, il allait à la Villette. Il avait trouvé un petit espace dans le parc de la Villette avec un peu de relief, quelques arbres, etc., et un petit peu caché, qui était chouette. Et là, depuis cette année, comme les transports en commun étaient pas interdits, mais on décommandait d'utiliser l'espace en commun, il a commencé à aller au square juste à côté de son école. Et au départ, il voulait pas y aller parce qu'il trouvait que c'était trop petit, que c'était pas bien. Et en fait, il s'est rendu compte que ça permettait d'avoir une vraie demi-journée, parce que ça prenait beaucoup de temps d'aller là-bas, de prendre le tram et de marcher. Ça permettait d'avoir plus de temps sur place. Et en fait, il a trouvé quand même dans ce square, il y a une partie réservée aux enfants. Donc là, c'est tout plat avec du plastique et quelques structures. Donc ça a vraiment pas d'intérêt. Mais par contre, il y a effectivement un espace, comme disait Christelle, qui est où il y a de l'herbe, il y a un petit peu de relief, il y a quelques petits arbustes, donc en fait pour eux ça fait déjà une petite forêt où ils peuvent se cacher dedans, il y a des feuilles par terre, etc. Donc c'est vraiment riche et intéressant quand même pour les enfants. Et les enfants maintenant aiment beaucoup cet espace-là, et en plus c'est le square de leur quartier. Et donc c'est aussi une autre façon d'appréhender leur quartier et de découvrir autrement ce square. Et je pense qu'avant de faire classe dehors, il y en avait beaucoup qui profitaient pas du square de cette façon-là, qui l'avaient pas découvert et exploré de cette façon-là. Et juste par rapport au lieu, parce qu'effectivement, c'est un des grands freins qui fait que les enseignants n'osent pas faire classe dehors, c'est qu'ils ont toujours l'impression, ils ont souvent l'impression qu'il faut une grande forêt, et il y a très peu d'enseignants qui sont juste à côté d'une grande forêt. Mais c'est aussi possible de le faire dans des lieux qui sont beaucoup plus petits, et même dans des squares. Et par exemple, l'espace où était Christelle, tu m'avais raconté qu'il y avait beaucoup d'adultes quand ils venaient, ils étaient un petit peu déçus par le lieu parce que c'était moins extraordinaire que ce qu'ils pensaient. Mais en fait, le lieu était déjà merveilleux pour les enfants. Et c'est ça qui est intéressant.
Ah, c'est super.
Oui, et ça, je rebondis vraiment sur ce que tu dis, Moïna, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas regarder seulement le lieu avec notre point de vue d'adulte, et donc anticiper aussi sur des aménagements futurs, parce que on trouve que c'est trop plat et on se dit, ah ben peut-être qu'il y aurait besoin de ça, ça, ça. C'est important, une fois qu'on a identifié le lieu, de prendre le temps avec sa classe, d'observer nos élèves, prendre contact avec ce lieu, se l'approprier, et c'est en observant nos élèves dans le lieu qu'on va identifier ce qui les intéresse et peut-être mieux cerner aussi leurs besoins et des possibles aménagements pour complexifier le lieu ensuite.
Sylvie, je ne sais pas si tu as des questions à ce sujet, parce que je sais que toi, tu l'as jamais fait, l'école du dehors, mais que ça doit forcément beaucoup t'intéresser. Donc, je ne sais pas si tu as des questions à poser ou un commentaire à partager sur cette pédagogie.
En fait, nous, on fait pas vraiment des demi-journées dehors, mais comme les enfants ont accès en permanence au dehors, puisque les classes sont dans des très grands jardins avec des potagers, des animaux. En fait, les enfants ont cette possibilité d'entrer et sortir et de passer du temps dehors. Et puis, on passe beaucoup, beaucoup de temps dehors. On les emmène en forêt. On passe vraiment beaucoup de temps dehors. Donc, je trouve ça formidable. Et ce que je voulais juste ajouter, c'est que je trouve aussi, moi, je l'avais remarqué, quand on emmène les élèves aussi des semaines en classe de neige ou en classe nature, et aussi quand on les observe dehors, on les comprend mieux, on apprend à mieux les connaître aussi. On remarque certains enfants avec des grandes qualités d'autonomie, d'entraide, de solidarité avec les autres. Et je trouve que ça nous permet aussi de mieux connaître le caractère de nos élèves. Donc, je trouve que c'est vraiment que positif, en fait.
Oui, et c'est vrai, je rebondis sur ce que tu dis, Sylvie. Oui. C'est effectivement qu'en classe dehors, on a beaucoup de témoignages de collègues qui le disent, les élèves se révèlent différents d'entre les murs. Et certains élèves qui sont effacés, inhibés, qui ne parlent pas en classe, se mettent tout d'un coup à parler, enfin, sont plus à l'aise dehors, et ça révèle vraiment les élèves de façon très différente. Et ça permet vraiment à l'enseignant d'apprendre à connaître et de développer des points de vue différents aussi sur ses élèves, et ça favorise vraiment une pédagogie différenciée.
Super. Et est-ce que vous pourriez peut-être nous partager une anecdote sur un enfant qui aurait fait des progrès importants ou qui se serait révélé pendant ses classes du dehors?
Alors, bah oui, je pense. Alors, j'en ai plusieurs, donc il faut que j'en choisisse. Bon, je vais parler d'une élève qui, pour elle, bon, l'école, c'était vraiment un espace très étranger, pas du tout familier. Et c'était vraiment une élève qui ne fréquentait pas du tout le coin livre de ma classe à l'intérieur. Et c'est vraiment la classe dehors qui lui a permis de rentrer en contact avec l'univers des livres et l'univers de l'école. Donc, c'est une toute petite anecdote, mais très simple. En fait, on était toutes les deux en classe dehors et à un moment donné, j'ai senti qu'elle s'intéressait au chant d'un oiseau. C'était un pinson des arbres. Donc, j'ai pris le temps d'écouter ce pinson avec elle. On l'entendait très bien, mais on ne le voyait pas du tout. Alors, je me suis dit, j'ai rebondi sur ça et on est allé s'installer dans un espace dédié aux livres de ma classe dehors, sur la nappe, et j'ai pris avec moi le livre des oiseaux et j'ai cherché la page où était dessiné le pinson des arbres. Et je lui ai montré. Je lui ai dit, mais tu vois, l'oiseau qu'on entend là, c'est le pinson. Là, regarde, il est là. On ne le voit pas, mais voilà à quoi il ressemble. Et ça a vraiment été un déclencheur pour elle. À partir de ce moment-là, elle a commencé à aller sur la nappe, à regarder les livres, à réouvrir ce livre qu'on avait regardé ensemble. Et plus tard dans l'année, elle a commencé aussi à fréquenter le coin livre de la classe. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que c'est vraiment un événement qui a déclenché chez elle aussi une parole en famille, puisque sa maman est venue me dire qu'elle aimait beaucoup la classe dehors, qu'elle parlait très souvent de la classe dehors à la maison. Et donc, il y a vraiment connexion qui s'est faite entre l'école et la maison et son vécu personnel qui a été assez phénoménal.
C'est une super jolie histoire. Merci beaucoup. On arrive déjà à la fin de cet entretien passionnant. Moi, j'aimerais vous poser une dernière question à toutes les deux. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui nous écoutent et j'aimerais que vous donniez vos derniers conseils sur comment mettre en place cette classe dehors et si vous avez des conseils pour qu'ils se jettent à l'eau et osent mener ce projet dans leur établissement.
Alors, peut-être dire que l'école dehors, c'est vraiment possible pour tous et toutes, que c'est effectivement nécessaire de prendre le temps d'identifier un espace, de ne pas rester seul aussi, mais de pouvoir partager sa pratique et de se faire accompagner si on ne se sent pas sûr de soi par des conseillers pédagogiques, mais aussi des éducateurs nature-environnement, mais que c'est une belle aventure. Il faut prendre conscience que ça va modifier en profondeur souvent nos propres pratiques de classe. Quand on fait la classe dehors, je dis souvent que c'est aussi un levier pour une classe plus flexible à l'intérieur, parce qu'on prend conscience dehors, finalement, les enfants s'approprient des micro-espaces, ils évoluent différemment, ils y vont, ils repartent, et en classe, on peut aussi proposer des alternances comme ça, et donc, mais que vraiment, franchir ce pas-là, ça fait un bien énorme, et pour nous, et pour les élèves.
Moïna, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, effectivement, je trouve que je suis complètement d'accord avec ce que dit Christelle. Ce qui est frappant, c'est que les enfants aiment la classe dehors et que les enseignants qui commencent à faire la classe dehors, même si au départ ils ont souvent beaucoup d'appréhension par rapport aux parents, par rapport à ce qu'ils peuvent faire, comment ils doivent le faire, pour être sûr de pas perdre du temps par rapport aux apprentissages, etc. Et ben, dès qu'ils le, à partir du moment où ils le mettent en place, ils se rendent compte à quel point c'est bon pour les apprentissages, bon pour les enfants, et que aussi eux prennent beaucoup de plaisir à ce temps-là. Et très souvent, ce qui revient, c'est les enseignants, ils disent, oh là là, je peux pas m'imaginer faire classe que à l'intérieur maintenant.
Ouais.
Et donc, ils voient les choses de façon complètement différente. Ça devient assez évident. Et dernière chose, par rapport à, au fait de se lancer, on est en train, avec Christelle et d'autres, de commencer à mettre en place un petit, une petite foire aux questions. Et on a fait un premier webinaire déjà, avec qu'on organise avec Canopée et d'autres associations.
Super.
Et donc, on a fait une première session du webinaire. On va faire une deuxième session la fin avril, le 28 avril. Et donc, ça répond à ces questions-là, aux questions de comment on fait par rapport au lieu, comment on fait par rapport aux parents pour communiquer avec eux, pour les autorisations, pour la logistique, etc. Juste pour le tout début, sans rentrer dans les questions pédagogiques et ce qu'on va faire dehors, mais juste pour lever ces premiers freins du début.
Oui, ah bah c'est super. Bah bravo en tout cas pour tout ce que vous faites. Moi j'adore votre projet, donc je suis super contente de l'avoir présenté à nos auditeurs des adultes de demain. Merci mille fois pour votre temps et on partagera tous ces événements que vous organisez également sur nos réseaux sociaux.
Merci à toi, au revoir.
Merci. Merci.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant les adultes de demain. Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.